Il est 8h21, bienvenue dans le lieu du débat et des opinions. Les signatures de Matin Première vont interroger peut-être Gilles Kepel. Il y a Marie Jacob, rédactrice en chef internationale à la RTBF, Aline Gonsalves pour la revue des médias et le mot de Matin Première qui est islamisation, un mot proposé par Fabrice Gourfillet. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Retour ce matin sur ces réfugiés qui fuient la Syrie ou l'Irak. Les femmes et les enfants représentent environ 30% des réfugiés arrivés en Europe. Ces derniers mois, les femmes sont de plus en plus nombreuses à prendre le chemin de l'exil, comme le montre un nouveau rapport d'Amnesty International et les témoignages qui commencent à nous parvenir. Les femmes sont particulièrement vulnérables, Marie Jacob.
Oui, on a tous en tête les images de ces centaines de milliers de migrants entassés sur des bateaux, sur la route des Balkans ou encore parqués dans des camps. Mais ce que les images ne montrent pas, ce sont les violences faites aux femmes, aux jeunes filles. Il y en a peu qui témoignent par peur ou par pudeur. Pourtant, jusqu'en Europe, elles sont confrontées à différentes formes de violence. Les passeurs qui tentent parfois d'abuser d'elles, chantage sexuel quand il n'y a pas assez d'argent, par exemple, pour faire embarquer toute une famille. Les femmes seules sont souvent les plus exposées. Le trajet dure des mois. Elles sont parfois harcelées. Des filles très jeunes racontent qu'elles ont préféré se marier avec un inconnu pendant le voyage juste pour être protégées.
Il arrive que les pays européens ne soient pas en mesure de les protéger.
Des femmes racontent aussi avoir été battues, par exemple par des policiers dans des camps en Macédoine ou en Hongrie. Sans lumière, la nuit, sans porte que l'on peut fermer, les femmes craignent par-dessus tout les violences sexuelles. Les États européens partent au plus pressé, on le sait, on l'a vu, entendu. On installe des tentes, on sépare rarement les femmes et les hommes parce que ce n'est pas possible ou bien parce qu'aussi parfois les réfugiés veulent bien sûr rester en famille. Des situations à risque. Les femmes expliquent qu'elles dorment avec leurs vêtements. Quand elles sont seules dans les camps, elles évitent même parfois d'aller chercher de la nourriture distribuée par les ONG pour qu'on ne les remarque pas.
Et ces derniers jours, le froid est venu s'ajouter aux violences.
Oui, parce que la guerre n'a pas de saison. La vague de froid qui s'abat sur l'Europe est un obstacle de plus pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants qui continuent à entrer par milliers en Europe. Mais l'Union est de moins en moins encline à les accueillir. Plusieurs pays réclament aujourd'hui des mesures pour stopper l'arrivée des migrants.
Gilles Kepel, Charlie sur Twitter nous demande pourquoi la majorité des migrants sont des hommes jeunes. Les femmes et les enfants peuvent mourir sur place.
Parce que beaucoup d'entre eux considèrent qu'ils n'ont plus aucun avenir. Dans un pays comme la Syrie, par exemple, on ne voit pas la fin. Et quand vous êtes jeune, vous avez envie de faire votre vie, vous partez aujourd'hui. Que ce soit dans les régions contrôlées par le régime, où il y a des bombardements incessants, ou que ce soit dans les régions contrôlées par Daesh, où vous êtes zigouillés si vous ne suivez pas leur idéologie, vous n'avez qu'une envie, quand vous le pouvez, et que vous estimez que vous avez les moyens d'affronter ce que vous venez de décrire, c'est de partir. Pour les vieillards, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'ils vont mourir en chemin.
Également, on a décrit un peu les circonstances dans lesquelles...
Et des femmes qui sont aussi, qui sont de futures mères éventuellement, et qui ne veulent pas donner à leur enfant... qui veut vivre aujourd'hui dans la Syrie, bombardée, écrasée, etc. Tout le monde veut foutre le camp.
On passe à la revue des médias. Aline Gonsalves, qu'avez-vous relevé ce matin ?
Eh bien, on va commencer peut-être symboliquement par Charlie Hebdo et une interview, celle de Jemila Benhabib, auteure et femme politique québécoise qui milite contre le fondamentalisme musulman. Charlie Hebdo l'interpelle sur la situation au Canada. Le pays a opté pour le multiculturalisme. Une loi de 1988 garantit la liberté pour tous de maintenir, de valoriser et de partager leur patrimoine culturel. Alors, est-ce que c'est une réponse possible au phénomène de radicalisation ? Jemila Benhabib est très claire. Pour elle, le multiculturalisme, c'est l'inversion du devoir d'intégration. C'est la communauté d'accueil qui doit s'accommoder à un individu. Plus moyen de penser le monde de façon collective, la société devient une addition d'individus et de communautés qui coexistent. On renonce à répondre à toutes les questions sociétales, égalité homme-femme, diversité sexuelle, etc. C'est la négation même de toute possibilité de citoyenneté.
Après le Canada, direction la France, où la Ligue des droits de l'homme demande la fin de l'état d'urgence.
Oui, décrété après les attentats du 13 novembre, il n'est toujours pas levé. Le Monde relaye les arguments avancés par la Ligue des droits de l'homme. Ces mesures ne sont plus strictement nécessaires et elles ont perdu toute justification. L'ONU aussi s'inquiète. Des experts des Nations Unies ont recommandé à la France de ne pas prolonger cet état d'urgence, estimant qu'il impose des restrictions excessives et disproportionnées sur les libertés fondamentales.
En Belgique aussi, le débat sur les mesures antiterroristes est ouvert.
La Libre Belgique a sonder des magistrats mais aussi des enquêteurs et ils sont pour un allongement de la garde à vue de 24 à 48 heures. La Libre qui rappelle aussi la volonté du gouvernement d'autoriser à l'avenir les perquisitions 24 heures sur 24. Et puis dans le soir, cette question qu'on va peut-être vous poser aussi à vous, Gilles Kepel. Le fugitif Salah Abdeslam est-il lâché par Daesh? Une question suscitée par la publication en ligne d'un photomontage de propagande du groupe terroriste. Une sorte de tableau d'honneur à la gloire des terroristes. On y voit les portraits des 9 auteurs des attaques de Paris. Manque le 10e, Salah Abdeslam. Le soir s'interroge, serait-il tombé en disgrâce?
Quelle est votre analyse?
C'est l'une des hypothèses que, au fond, Salah Abdeslam n'a pas assuré. C'est-à-dire qu'il a jeté sa ceinture explosive et il est parti. Il n'est pas mort au champ d'honneur et il n'a pas fait ce qu'on aurait espéré qu'il fît. Et ça pose une question aussi, l'histoire de Salah Abdeslam, sur laquelle on n'est pas bien informé, bien sûr, c'est précisément l'efficacité de la répression. L'une des histoires qui a couru, entre autres, c'est que il était planqué toujours à Molenbeek et que globalement, on savait plus ou moins où il était, mais qu'on n'a pas pu y arriver parce que l'heure de la perquisition légale n'était pas arrivée. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais dans les détails, mais il y a toute une réflexion, justement, sur la nécessité ou non de l'état d'urgence, du type de mesures spéciales face au terrorisme. Et il y a tout un débat en France aussi sur la liberté et la sécurité. Alors, j'ai entendu ce que vous avez dit sur la Ligue des droits de l'homme et les experts de l'ONU, dont je ne sais pas qui ils sont. On n'a pas le sentiment en France aujourd'hui que l'état d'urgence est attentatoire aux libertés fondamentales quand même. J'ai rien senti particulièrement en ce qui me concerne, à part des militaires dans la rue dont on espère qu'ils vont pas se faire agresser par des types qui vont leur piquer leur arme.
Comme à Molenbeek.
Comme ça vient de se produire en Belgique, oui.